Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Christophe Jubien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, votre magazine consacré à la poésie qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. La Route Inconnue, je vous le rappelle, est réalisée en partenariat avec la revue de poésie trimestrielle Décharge. Vous entendrez d'ailleurs en seconde partie d'émission les voix de Claude Verset, poète et pilier de la revue, Cécile Guivarche, poète et animatrice du site Terrassiel, et enfin Patrick Jockel, poète lui aussi, mais aussi romancier et auteur pour la jeunesse. Mon invité du jour est une traductrice, Kim Yoon-ja. Nous lui devons la traduction d'un livre qui m'a beaucoup plu, Le ver à soie marqué d'un point, de la poétesse coréenne Ra Hee-duk, ouvrage publié aux éditions Chêne et dont je vous lirai quelques extraits tout à l'heure. En attendant, je me tourne vers vous qui êtes d'origine coréenne. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et dans un premier temps, pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenue traductrice?
Oui, j'ai un ami grand traducteur prolifique qui s'appelle Thierry Gilleveuf. Il y a une vingtaine d'années, il a parlé de moi à Claude-Michel Cluny, qui s'occupait de la collection Orphée aux éditions La Différence. Cet éditeur et poète m'a contacté pour me demander si je voudrais traduire le poète coréen contemporain Han Dong-gyu. Il avait rencontré ce poète au cours de son voyage en Corée. J'ai accepté cette proposition avec un grand enthousiasme. J'étais venue en France pour faire un doctorat de troisième cycle. J'avais soutenu une thèse sur le poète Jules Supervielle. Traduire la poésie m'était donc assez naturel. La traduction des poèmes de Han Dong-gyu a finalement été publiée par les éditions Circé en 2000. Et depuis, je ne traduis que des poètes. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de la langue coréenne. Comment est-elle née? Est-ce que la langue coréenne est une fille de la langue chinoise?
Oui, je peux vous dire. La langue coréenne appartient à la famille des langues altaïques, comme le mongol et le turc, par exemple.
Ah.
Le coréen, oui, le coréen est une langue phonétique qui n'a rien à voir avec le chinois ni avec le japonais. Un alphabet coréen unique qu'on appelle le Hangul, qui veut dire l'écriture du peuple Han, a été inventé en 1443 par le grand roi Sejong de la dynastie Joseon. Alors que l'écriture chinoise est un système idéographique, qui veut dire un signe représente une signification, le Hangul est un alphabet composé de 24 lettres, dont 10 voyelles et 14 consonnes. Ces lettres servent aussi à former des consonnes doubles, consonnes composées et voyelles composées. Les lettres doivent être combinées en syllabes, 2, 3, 4 phonèmes. Voilà. Et on célèbre le Hangul chaque année, le 9 octobre, et c'est un jour férié.
Quelles sont les difficultés qu'on doit surmonter lorsqu'on traduit le coréen en français?
Oui, bien sûr, c'est difficile. Déjà, la traduction de poésie, en elle-même, soi, c'est tellement difficile. Alors oui, par exemple, surtout la difficulté, par exemple, pour traduire la poésie, c'est ça, en coréen. Donc, en Corée, parmi les jeunes poètes, il y en a qui privilégient particulièrement le travail sur la matière des mots.
Oui.
Ils s'attachent à la création lexicale, au jeu sur la polysémie. Alors, ce genre d'écriture rend la traduction plus difficile, voire intraduisible.
Oui.
Donc, quand je choisis des poèmes à traduire, j'évite ceux qui perdraient tout leur sens au niveau linguistique par la traduction.
Bien sûr.
Par exemple, donc, ici, c'est pas tellement, de toute façon, le cas de la poésie de Ra Hee-duk. Et donc ici, je voudrais évoquer quelques problèmes que j'ai rencontrés en traduisant les poèmes de Ra Hee-duk.
Oui.
Par exemple, dans le poème liminaire, du côté de ce péché, une narrativité quelque peu redondante a été allégée au profit de la concision et de la tension poétique. Donc, Cet arbre qui voulait donner tant de couleurs à ses fleurs, je dis la traduction vraiment fidèle, c'était « se serait donc senti seul, mais ne s'en serait même pas rendu compte ». Mais là, c'est devenu donc, cet arbre qui voulait donner tant de couleurs à ses fleurs, n'avait peut-être pas conscience de sa solitude.
Ah.
Et puis de même, vers la fin du poème, au moment où ces pétales éparpillés devaient avoir gagné quelque lointain, a finalement été rendu plus simplement par, après le grand départ, des pétales éparpillés. Voilà, c'était un peu, c'est un peu surtout un peu ce genre de problème.
Ouais.
Donc, comme c'est la traduction de poésie vers la concision, hein, c'était ça. Et puis, par exemple, le poème « La citadelle » de Hemi a été l'objet de nombreuses modifications. J'avais traduit au plus près du texte en ayant recours au vouvoiement pour la narration. Mais Jean-Baptiste Parra, qui relisait toujours mes poèmes, et, a trouvé qu'en français, cela sonnait de façon péremptoire, voire édifiante. J'ai donc finalement opté pour le tutoiement plus apte à rendre l'humilité, la solitude et l'incertitude propres au sujet.
Oui. Vous avez dit, voilà. Jean-Baptiste Parra relisait mes poèmes. Je trouve ça tout à fait juste parce que finalement, quand on traduit, on recrée, on se réapproprie le texte, non ?
Oui, en quelque sorte, oui. Mais comme moi, je suis quand même très, très scrupuleuse et puis moi-même, comme je ne suis pas poète, j'ai un peu cette attitude d'être très, très fidèle au texte, hein, vraiment au service texte. Mais par exemple, quelqu'un comme Jean-Baptiste Parra, comme c'est un grand traducteur et puis comme c'est un poète, hein, il met ses touches, naturellement.
Ouais.
Alors finalement, c'est aussi bien. Voilà. Et je dirais peut-être... Oui, c'est d'ailleurs pour la poésie pour le livre de Naridoc, c'est vraiment à l'initiative de Jean-Baptiste Parra qui a été réalisé. Jean-Baptiste Parra, qui édite des livres bilingues dans la collection D'une voix l'autre aux éditions Chênes, a rencontré Naridoc au Festival international de poésie qui s'est tenu en Chine. À cette occasion, il a lu les poèmes de Naridoc publiés en anglais. Par la suite, il m'a proposé de traduire ses poèmes pour la revue Europe qu'il dirige. Les poèmes de Naridoc ont été publiés à 3 reprises dans la revue. Et puis après, au fur et à mesure que je traduisais les poèmes de Naridoc, je les faisais découvrir à une amie passionnée de poésie. Elle s'appelle Françoise Pluneau-Maussan. Sa lecture enthousiaste et attentive me permettait de bénéficier d'un autre regard sur le texte. Après, Jean-Baptiste Parra a apporté à cette traduction déjà assez bien fignolée ses touches de poète et grand traducteur. Et donc là, je suis en train de vous parler de la difficulté que j'ai rencontrée pour ce livre, hein, en fait. Hein. Donc, l'écriture de Naridoc est assez claire dans l'ensemble. Hein.
Oui, il est simple. Hein.
Mais pour quelques poèmes, j'ai dû demander à la poétesse de m'éclairer en ce qui concernait quelques passages, certains passages. Ses réponses étaient tellement limpides et précises que je n'ai guère eu de difficultés. Voilà, j'ai pu toujours surmonter grâce à son aide.
Oui. Vous avez aimé la poésie de Naridoc ?
Oh ben, évidemment, oui, bien sûr. C'était la toute première fois, c'était quand je suis allée en Corée, l'an 2000, quelque chose comme ça. Alors, c'était au cours d'un repas, hein, comme ça, avec plusieurs poètes. À ce moment-là, Naridoc n'était pas là, mais ils ont beaucoup parlé du livre qui était sorti, qui fait partie de ce recueil. Et là, quand j'ai lu ce livre, vraiment, j'avais très envie de traduire, mais je n'osais pas pendant longtemps. Et puis, c'était donc, c'était vraiment par beaucoup de chance, comme Jean-Baptiste Parra, au retour de la Chine, hein, et bien, comme il a découvert là-bas, c'est lui qui m'a parlé. Et c'est comme ça, j'ai dit tout de suite oui. Et c'est commencé comme ça.
Est-ce que Raïdouk est représentative d'un courant de la poésie coréenne contemporaine?
Oui, mais c'est-à-dire que dans la poésie contemporaine, dans la poésie coréenne contemporaine, il y a autant de poétiques que de poètes.
Que de poètes.
Oui, et en Corée, les jeunes poètes sont souvent critiqués pour préférer la recherche formelle à une réelle communication avec leurs lecteurs. Il y a une catégorie de poètes qu'on accuse d'écrire des poèmes tout en rupture, incohérents et non communicatifs. Mais la poésie de Nahidok, elle, est limpide et simple. Elle relève d'un lyrisme moderne en phase avec son temps, mais ce n'est pas un lyrisme de l'expression ou de la confession, apanage des poètes du passé. Ces poèmes pleins de charges émotives donnent à voir le monde et à entendre une voix personnelle. Sa poésie est largement lue, est très apprécié et aimé en Corée.
Je vous pose une dernière question, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez fait un mémoire, si j'ose dire, sur Jules Supervielle. Est-ce qu'il l'envie ne vous est pas venue de traduire Supervielle en coréen? Peut-être que vous l'avez déjà fait.
Oui, c'est-à-dire que oui, il m'est arrivé de traduire les poèmes de Supervielle dans une revue littéraire en Corée. Oui.
C'est un autre, d'autres difficultés encore de traduire là du français au coréen, bien sûr, oui.
Oui. C'est encore autre chose, oui. Mais c'est aussi difficile. Mais quand même, comme c'est ma langue maternelle, c'est quand même plus facile pour moi de
plus
traduire
facile.
Donc du français en coréen, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Kim Yoon-ja. Je rappelle que ce livre que vous avez traduit s'intitule « Le ver à soie marqué d'un point », publié aux éditions Chêne. Nous allons passer un peu de musique et puis je vais lire à nos auditeurs des extraits de ce très beau livre. Merci beaucoup.
Oui, merci.
Voici donc quelques extraits du livre de Raïdouk, « Le ver à soie marqué d'un point noir », traduit du coréen par Kim Yoon-ja, préfacé par Jean-Michel Maupois et publié aux éditions Chêne. Du côté de ce péché. Ce péché qui avait tant de plis en son cœur. J'ignore pourquoi je n'avais pas envie de m'en approcher. Cet arbre aux fleurs blanches et roses ne devait guère offrir d'ombre pour s'asseoir, pensais-je, en me contentant de passer au loin. Entre la fleur blanche et la fleur rose existent des milliers de couleurs. Je les saisis à distance en regardant cet arbre. Ébloui, je l'ai saisi. Cet arbre qui voulait donner tant de couleurs à ses fleurs n'avait peut-être pas conscience de sa solitude. Il m'a fallu très longtemps pour lire les innombrables plis de son cœur. Après le grand départ des pétales éparpillés, à l'ombre du péché qui avait l'air de s'ennuyer un peu, j'ai écouté d'un cœur paisible le soir qui approchait. Une nouvelle lune. Son corps devait être assez lourd. Assise à califourchon sur la crête, elle se repose à l'aube. Même à une déesse, il arrive ainsi de se faire surprendre. Parfois, elle aussi se salit les pieds à la terre. Je l'ai vue à la dérobée au détour d'un chemin solitaire dans la montagne. Sans doute s'en est-elle déjà aperçue, le visage un peu rougi, elle disparaît dans les nuages, avant de cheminer de nouveau un peu plus loin. L'empreinte laissée par son derrière, lorsqu'elle s'est assise, subsistera sur cette crête, et les arbres en garderont une blessure radieuse, comme Isaïe, dont les lèvres ont été purifiées par un charbon ardent. Ce qu'est s'obscurcir. Quand la chambre de 17h44 me confie à celle de 17h45, alors que j'étais couché là, quand le rayon de soleil qui éclairait mon corps, comme s'il regardait l'intérieur d'une triste maison, retire soudain sa chaleur, quand au loin un peuplier blanc tombe par terre, que son écorce se dessèche et que le dos flétri de ma main s'amenuise et s'efface, quand la mémoire se trouve arrêtée à 17h45, que l'obscurité ne s'épaissit plus et que nul ne se soucie de l'arbre renversé, mes os et ma chair, restés si longtemps debout, finissent par me faire mal. Ce soir, je caresse toute seule mes côtes fissurées, tout doux, tout doucement. Parfois, le printemps me rend visite. Depuis longtemps, mes mots ont cessé de couler vers toi. Les mots, à peine sortis de ma bouche, gèle aussitôt dans les airs, comme une toile d'araignée qui se pétrifie dans le vide. Seule la rumeur du silence se répand, et les débris glacés des mots se trouvent éparpillés. Parfois le printemps me rend visite, les mots exposés aux rayons nouveaux du soleil, les mots qui fondent et ruissellent, je les entends de nouveau. Dans une brume de chaleur, les mots remplis de sève en appellent d'autres. De grâce, pardonnez-leur ces turbulences. Le vieux tambour a brodé. Sans finir de me broder, quelqu'un a disparu. Les graines ne germent pas, les fleurs ne se fanent pas malgré leur longue soif, les vagues ne déferlent pas malgré leur longue houle, les nuages ne s'allègent ni ne s'alourdissent. Dans ce moment de tension où le coton bordant la soie est fixé par des punaises sur ce vieux tambour, reprends l'aiguille rouillée et enfile-la. Fixé par 36 punaises, je suis encore lisse. La pointe de l'aiguille qui m'a transpercé une première fois, ces graines, fleurs, vagues et nuages se souviennent encore de ces douleurs et les attendent. L'envers et l'endroit de l'étoffe, et de l'autre côté, ces mots qui ne peuvent plus revenir. Accomplis-moi avec cela, je t'en prie. Ô toi disparu il y a longtemps, sans finir de me broder. La citadelle de Ahémie. Ahémie est un lieu saint historique où les catholiques furent exécutés par milliers lors de la dernière et plus grande persécution de 1866 sous la dynastie Joséon. La citadelle de Ahémie. Quand tu iras à la citadelle de Ahémie, au coucher du soleil, il te faudra laisser ton cheval devant les remparts. Tu entreras à pas lents et tu chercheras deux arbres. En longeant la haie épineuse d'orangers sauvages, tu apercevras d'abord un sophora nimbé par le soleil du soir. Il se dresse encore là, cet arbre sec et noir, meurtri profondément par les cordes et les chaînes,
et criblé de mille cris formant autant de nœuds. Comment ce Sophora aurait-il pu ne pas devenir aveugle et sourd si, parmi tant d'usages auxquels se prête un arbre, il fut choisi pour être l'instrument du supplice? Lorsque tes doigts auront touché avec compassion ses blessures, tu marcheras encore jusqu'à un orme immense. Dans son ombre large et fraîche, face à l'ancien bureau de l'administration, les gens souriront comme s'ils avaient oublié le Sophora. Assis en silence, tu compteras une à une les feuilles de l'orme avant de te lever. Sur le chemin du retour, une fois encore, regarde le Sophora. L'obscurité ne quitte plus sa branche brisée. Entre l'ombre et le supplice, si loin, si proche, cette obscurité est tout ce que je peux t'offrir. Toi qui iras un jour à la citadelle de Ahémi, solitaire entre l'orme et le Sophora. La fenêtre éclairée. Comme quelqu'un qui veut dérober la lumière, je me place de l'autre côté de la fenêtre et regarde l'intérieur de la maison. Mon mari et mon grand jouent au janji. Les fruits dans l'assiette sont encore mouillés, de la bouilloire s'échappe la vapeur. Ma petite s'endort-elle? Comme un papillon de nuit, je me frotte contre la fenêtre et je pense à l'étrangeté de ce ménage familier, au lointain de cette distance si courte pour les appeler, à la douceur ou à la paix dans ce monde où je suis absente. Mon grand regarde sans arrêt l'horloge. Pourtant, comme si j'étais un papillon de nuit, aujourd'hui je me cache dans le noir au dehors pour regarder pendant longtemps cette fenêtre qui a l'air de partir à tout moment comme un bus éclairé. Un pot de fleurs jeté. Ô pot de fleurs jeté au bord de la route, reçois mon cœur grouillant plutôt qu'une poignée de terre. Dans ton ventre, les vers vont germer. L'arbre qui a avalé un oiseau. Un oiseau à la gorge rouge file comme un trait devant moi et entre dans la forêt. Vive lueur rouge dans le ciel du soir, en suivant ce feu, j'avance vers l'arbre où vient de se poser l'oiseau. Il n'a pas repris son envol, j'en suis sûr. Pourtant, m'approchant doucement, quand je lève les yeux, l'oiseau n'est plus là. Ah, de sa bouche noire, l'arbre l'a englouti. Baies rouges et sèches comme les prunelles de l'oiseau et bruit de picotage dans le bois, branches d'arbres qui sanglotent tout bas. J'ai beau rester assise longtemps à l'ombre de l'arbre oiseau, il ne daigne toujours pas m'avaler. Seule l'obscurité, cette obscurité m'envahit, et je fais les 100 pas longuement devant sa porte fermée. Histoire d'un phonographe. Se sont usés, a sans doute lu une blessure. L'aiguille remonte lentement, la mémoire laissée par le son, c'est un palpable chemin. Quand bien même l'aiguille le lit et le relit, le chemin de la blessure ne se creuse ni ne s'aggrave, seule la pointe de l'aiguille qui le lit ne cesse de s'user. Ce son usé, ce simple son, nous sépare de l'obscurité originelle. Alors qu'on a cru pouvoir enregistrer le son et répéter la blessure, on ne peut plus retourner au silence où le son a pris naissance. Deux pièces de lin. Par un matin de neige, grand-mère a revêtu l'habit mortuaire qu'elle avait autrefois confectionné. La billet était enveloppée dans le papier journal du 15 juillet 1978. Un jour d'hiver, à l'approche de ses 100 ans, grand-mère, qui aura encore vécu 20 ans après l'avoir cousue, s'est enfin parée comme d'une robe de fée cachée dans un placard de ce vêtement au feston vert amande. Mais on avait beau chercher ces béocéones, ils étaient introuvables. Comme c'est bizarre, elle n'aurait jamais manqué de les faire, jamais. Devant ces gens interloqués, on aurait cru voir les lèvres de grand-mère esquisser un sourire furtif. À la place de ces béocéones, il y avait 2 pièces de lin dans la boîte. On les a enroulées autour de ses pieds, pareil à du bois sec. Pourquoi grand-mère n'avait-elle finalement pas préparé ces béocéones, laissant ainsi ces 2 pièces de lin? Le matin du 19 janvier 1998, chaudement vêtue d'une robe mortuaire et de 2 pièces de lin, enveloppée dans le papier journal du 15 juillet 1978, grand-mère a fait son entrée dans sa nouvelle maison de neige. Dans ses couloirs. À force de déambuler dans les couloirs de l'hôpital, on devient tous experts en pleurs. Chaque pleur a son poids subtil, comme un duvet d'oiseau, et sans même toucher les épaules qui tremblent, on peut discerner si c'est un pleur qui suit l'annonce d'une maladie, un pleur à l'approche de la mort, ou un pleur devant un corps refroidi. Il règne dans ces couloirs une loi tacite. Ne pas regarder en arrière quand on entend pleurer. Avancer tout droit, comme si on n'avait rien entendu. Dans cet entrepôt où les larmes coulent, en ruisselet presque tari, personne ne mesure leur poids. La paume disparue. Il a d'abord montré un lotus blanc épanoui, puis agité avec entrain sa paume vide. Ensuite, il a tendu un bol chaud de graines de lotus. À présent, le poignet desséché et brisé, il se retrouve blotti tête en bas. La poitrine percée d'innombrables lances. L'étang s'enfonce comme un grand navire abandonné. Que fait-il là, blotti dans le fond? Je cherche à lui adresser la parole, à saisir sa main, mais je ne le vois pas. Peut-être ramasse-t-il des graines tombées sous ses pieds et les sème-t-il dans la boue? Il ne redresse pas la tête. Si je revenais 100 ans plus tard, m'offrirait-il un bol de graines de lotus? Si je revenais plus tôt, pourrais-je saisir au moins sa main vide? Si je revenais encore plus tôt, pourrais-je voir une fleur blanche? Si jamais je revenais à Hoysan, à Hoysan. Souffle. Je crus que c'était un nuage, mais c'était l'ombre de la fumée. L'ombre qui flottait passa au-dessus de ma tête. Je pus sentir encore sa chaleur. Plus bas, un filet de fumée caressa un peu les reins d'un magnolia et s'envola. À l'instant où j'allais toucher ses lèvres fermées, ma main et l'ombre de la fumée frôlèrent ensemble le bouton de fleur. Ah, de qui est ce baiser? Comme un poisson séché. Dans le noir, tu m'as demandé de rester près de toi juste un moment. C'est peut-être de l'amour, ai-je pensé, mais à l'instant où ton corps et ma main se sont touchés, j'ai compris que c'était à cause de la peur. Semblable à un poisson sur le sable d'une source tarie, tu frétillais péniblement. Je crachais sans cesse pour t'humecter, comme on se frictionne pour ne pas mourir gelé. Tes écailles ont brillé un instant dans le noir. Pourtant, tu n'as rien compris à ma peur. Inquiète du jour qui pointait peu à peu, de la lumière qui s'écoulait comme de l'eau pour inonder le noir, je crachais sans cesse sur tes écailles flétries. Longtemps après, j'ai vu quelques vandoises sécher sur la vieille table. Je les voyais pour la première fois, mais je t'ai reconnu d'un seul coup. Elles avaient été pêchées une nuit d'hiver sous la glace, en amont de la rivière Namdae. Leurs nageoires étaient brisées, leurs écailles et leurs yeux scintillants étaient flétris. Sur la vieille table, il n'y avait que le silence des vandoises séchées sous les rayons du soleil d'hiver. L'habitude des funérailles au vent. C'est ce matin que j'ai réalisé que les fruits séchés étaient devenus nombreux dans ma chambre. La grenade et l'orange sauvage sur mon bureau sont maintenant plus durs que pierre. Depuis que leur parfum a disparu, je me sens enfin tranquille. Je murmure, tout en caressant leur peau dure, elles ont peut-être gagné une vie éternelle en perdant leur parfum. Les glands de l'automne dernier qui étaient tombés tout d'un coup sur ma tête sont bien rangés dans une coupelle. Quand je les agite, j'entends vaguement un son de cloche. Les baies séchées des glantiers sont encore rouges. Lorsque je voyais des fleurs fraîches ou des fruits, l'idée que je devais célébrer leurs funérailles avant qu'ils ne se décomposent par leur propre humidité m'avait fait prendre l'habitude des funérailles au vent précoce. Au soleil et au grand air, je suspendais à l'envers leur corps parfumé pour en faire évaporer le sang et la chair, ou bien je mettais la chair des fruits confits sur le feu et remuais avec une cuillère en bois, sinon je n'étais pas tranquille. Serais-je donc atteinte de la manie de tout dessécher? Quelqu'un m'avait dit que j'étais doué pour sécher les fleurs. Cependant, en entrant ce matin dans ma chambre, qui exhalait une odeur forte de pétales secs, j'ai cru entendre « C'est juste pour apaiser votre sang nomade » au milieu des corolles aussi légères que des papillons. Ses lèvres aux multiples couches qui n'avaient jamais touché de cuisses humides poussaient toutes ensemble ce cri vers moi. Voilà, ce sont les 20 premières pages de ce livre de Ra Eduk, Le ver à soie marqué d'un point noir, publié aux éditions Chêne dans la collection D'une voix l'autre. On écoute de la musique et l'on se retrouve en compagnie, si je ne m'abuse, de Claude Versé. Après ce délicieux Alfie interprété par Carlos Franzetti, je vous propose de rejoindre notre ami Claude Verset, pilier de la revue des charges, notre partenaire, pour sa chronique mensuelle.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Souvenons-nous, on nous avait promis un nouveau monde. Mais non, je ne m'égare pas et je parle bien de poésie. Me référant à l'ouvrage d'Yves Dimano et Isabelle Garon qui avait fait événement en 2017. Un nouveau monde paru aux éditions Flammarion. Eh bien, ce nouveau monde promis ressemble décidément de plus en plus à l'ancien. Réflexion née de la lecture des sonnets proposés dans « Sans adresse » de Pierre Vinclair chez L'Hurlure. Pensez des sonnets. Ne forçons cependant pas trop le trait. La roue a tourné et il paraît loin le temps où tout geste artistique que ne sous-entendait pas une volonté affirmée de rupture avec les pratiques du passé n'avait aucune chance d'être pris en considération. Nous-mêmes, à décharge, n'avons-nous pas accueilli dans la collection Polder ce poète amoureux des formes fixes qu'est Guillaume de Cour avec La Termitière. Et plus récemment encore, dans Des charges, le numéro 171, six sonnets de contrebande de Laurent Albarracin. Lequel, ben ça tombe bien, tient le rôle de contradicteur, un contradicteur un peu plus complice à dire vrai, dans une dispute à 16 coups, portant justement sur le fait de choisir un mode ancien pour parler du monde moderne, et qui constitue la seconde partie des sonnets de Sans adresse de Pierre Vinclair, qui est bien le sujet de cette chronique. Mais revenons à la première partie, je cite. « As-tu lu Joachim du Bellay, le poète d'heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ?» Alors qu'il s'ennuyait à Rome, il écrivit 191 regrets à ses amis. M'encroûtant à Shanghai, je suis si loin des miens. Bref, à l'instar de Du Bellay à Rome, à Shanghai, où il termine la septième année de son séjour, Pierre Vinclair s'emmerde. Le mot est dans le texte. Afin d'échapper à la morosité, à l'enlisement, il projette d'écrire de longues lettres concrètement adressées à tel ou tel, sans souci du bon goût ou de leur éventuelle valeur. Au final, l'écriture va prendre forme de sonnets, qui seront adressés à ses enfants, à ses collègues, aux amis, dont un certain Ivan, dans lequel, sans trop de peine, on reconnaît le poète Ivar Schwavar, lequel ira jusqu'à réécrire un sonnet de l'auteur. Et leurs propos seront ceux d'une conversation à bâton rompu, abordant tous les sujets, avec une apparence de désinvolture dans le ton comme dans le traitement du sonnet. Tous les sujets, comme comment ce quatrain, la fin de l'apartheid, la cirrhose du foie d'un ami proche, ou la perte de mes cheveux, une naissance ou un enterrement. Je veux mettre dans le poème et la peine et la joie. Eh bien, donnons pour terminer, dans son intégralité, cette fois, un sonnet caractéristique de cette poésie sans gravité à laquelle souhaite parvenir Pierre Vinclair. Écrire en vers rimés de maîtres réguliers, c'est difficile. Plus difficile est encore de trouver la musique hors de l'alexandrin. L'œuvre des avant-gardes autoproclamées n'est rien que théorique bien souvent. Amplifiant des thèses, le vomi qui coule sur la page en proportion inverse du travail nécessaire garantit quantité d'épigones. Je ne sais, Condello aussi, retrouvant nos livres, on dira de Nozick, ils furent bons poètes. Ils ont su inventer quelque chose de beau. Je cherche la musique. Et lorsqu'elle m'échappe, comme aujourd'hui, J'essaie quand même à emprunter celle de Dubélet ou de Robert Marteau. Dernière nouvelle, une bonne nouvelle. On apprend en dernier lieu que le poète va quitter Shanghai. Ben, le voilà parti pour Singapour, avec femme et enfant. Eh bien, l'on retrouve Pierre Vinclair, sans adresse, aux éditions L'Hurlure, 6 chemins des poissonniers, 14 000 camps. Le livre de 132 pages coûte 16 euros. Eh bien, voilà une bonne lecture pour attendre notre prochain rendez-vous. Et c'est dans un mois.
Entre le moment où cette chronique de Claude Verset a été enregistrée et aujourd'hui, eh bien, il s'en est passé des choses. Les éditions L'Hurlure, figurez-vous, ont changé d'adresse. Il faut écrire à éditions L'Hurlure, Emmanuel Carou, C-A-R-O-U-X, 7 rue des Cours Carou, Cours, C-O-U-R-T-S, Carou comme un carreau, 14 000 Caen. Je répète, éditions L'Hurlure, 7 rue des Cours Carou, 14 000 Caen.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour cette fois, je ne vais pas vous parler d'un recueil de poèmes, mais d'un journal. Il s'agit du Journal pauvre de Frédéric Germano, qui est paru à la clé à Molette. Alors, Journal pauvre, c'est quoi ? Donc, c'est un journal où dire la nécessité de joindre les deux bouts. C'est une année sabbatique, une parenthèse pour une vie salariée devenue insupportable, à construire autour d'un projet dont le cœur sera l'écriture. Une expérience à vivre, trouver des ressources en soi et au dehors, et expérimenter le dénuement, être attentive à ceux qui vivent de très maigres subsides, à ceux qui ont choisi de ne donner qu'un minimum de leur temps contre salaire ou de se consacrer à une activité peu rémunératrice. Ainsi l'annonce donc Frédéric Germano. C'est la nécessité de tenir un journal lorsque seules les contraintes vont en lecture, l'écriture et l'amitié. C'est une écriture journalière qui prendra fin avec la décision de poursuivre une vie la plus modeste en démissionnant de la vie active. Ce sont des lectures, donc aussi bien de la bande dessinée, par exemple Les Vieux Fourneaux, ou la lecture de Bachelard, de Bochot, de Quignard, de Rick Past, de Bachot, Antoine Aymas, de Françoise Ascal, et même de Terre à Ciel. C'est une fascination pour le travail d'Ilan Illouz et la peinture, l'art de peindre aussi soi-même. C'est l'occasion de prendre le temps de poser des mots, de réfléchir sur le sens de la lecture et ses effets que chacune provoque en soi. Cela permet aussi d'écrire, de réfléchir sur l'écriture, alors l'écriture du roman, des poèmes ou des notes de lecture ou même l'écriture du journal. Donc, Journal pauvre, c'est la condition aussi des écrivains qui est difficile avec la rémunération des droits d'auteur. Frédéric Germano a obtenu une bourse du CNL de 3500 euros, mais pour l'année entière. Le journal, car c'est le quotidien qui occupe une part importante dans la vie d'un écrivain, écrit Frédéric. Ce quotidien, au-delà de la lecture et de l'écriture, c'est aussi la lessive, la cuisine, la cueillette des fruits, la peinture, aller à la piscine, les réserves de pommes de terre et les chaussettes trouées. Des gestes simples dans un monde dur où les actualités autour des migrants et des attentats questionnent. Et quand arrive la fin de cette année sabbatique, c'est la crainte du retour au travail avec un questionnement. Frédéric Germano écrit finalement « J'ai besoin d'un peu d'argent » et de beaucoup de temps. Donc, le livre s'achève en fait par une copie de l'avis de rupture conventionnelle à son employeur, et pour signer aussi la fin d'un journal pauvre d'une année, qui est en fait un chemin de délivrance, qui implique de tout perdre pour trouver une issue. Donc, j'ai trouvé en fait ce journal, dans ce journal, beaucoup d'honnêteté, de la sincérité et de la profondeur. Je l'ai vraiment lu d'une traite, en une soirée. Et pour moi, c'est un livre essentiel qui impose une vraie réflexion sur le sens de l'écriture et même de l'existence et de l'argent. Est-ce que finalement, nous avons besoin de tant de choses pour exister ? Voilà, c'était donc Journal pauvre de Frédéric Germano, qui est paru à la Clé à Molette. Je vous dis à très bientôt, au revoir.
Vous n'aurez eu aucune peine à reconnaître la voix de notre amie Cécile Guivarche, poète, animatrice du site Terraciel, auquel je vous renvoie expressément. C'est un site sur lequel vous glanerez de nombreuses et importantes informations sur la poésie contemporaine de langue française. Je vous propose, pour terminer, de rejoindre notre ami Patrick Jockel à Mouhans-Sartoux. Patrick est poète, romancier, il anime également une petite maison d'édition, les éditions de La Pointe Sarenne, et il nous vient aujourd'hui avec, je crois, deux coups de cœur.
Eh bien, bonjour, je vais vous parler d'un petit livre qui a été édité en 2018 par les éditions Corpus. Il s'agit de Distorsion. Distorsion, c'était écrit par Tsvetanka Helenkova et traduit du bulgare par Krasimir Kavaldiev. Un petit poème pour commencer, et puis quelques mots sur ce que l'on trouve dans le livre pour continuer. Globe. Là où sur la surface lisse et convexe, le reflet rencontre le reflet, se trouve la prunelle, plate comme celle des serpents. L'équateur y est aussi. Et l'orgasme, et la chenille enroulée, et les anémones, l'obturateur, les pluies jour et nuit. Ne me dis donc pas qu'en bas et en haut, c'est le ciel. Ici, dans les poèmes de ce livre, tout se tient et se dérobe à la fois. Le monde est un tout, et les mots tournent autour, se saisissent d'un objet et rebondissent sur un autre. Le monde est un, et le poète s'y promène en tentant de rassembler cette diversité, de l'unifier, de lui rendre ordre et vie. Une vie commune, une vie à partager, une vie à se sentir unie au monde. Cette communion est l'une des pistes que poursuit inlassablement et dans toutes les langues la poésie. Merci à Krasimir Kavaldiev et aux éditions Corpus de nous partager ainsi les chemins de Tsvetanka Helenkova. Je vous rappelle le titre du livre, Distorsion, aux éditions Corpus. Aujourd'hui, une nouvelle collection aux éditions de la Rumeur Libre, une collection dirigée par David Dumortier. Et le titre dont je vais vous parler, c'est un titre écrit par Marc Baron. Il s'agit de « Ô ma vie ». Avec des dessins de Frédéric Cauvert, donc à la Rumeur Libre, c'est paru en 2018. Le titre de cette collection, c'est « Lèvres de voyou ». C'est un livre cartonné, et le livre de Marc Baron est le troisième ouvrage de cette collection, « Lèvres de voyou » aux éditions de la Rumeur Libre. Ça se présente comme un long poème, comme un monologue, comme une nuit blanche passée à se murmurer des paroles de feu, des souvenirs, et tout autant et sinon plus de désirs. Un texte à lire à haute voix, mais pas trop haute la voix. C'est intimiste, c'est optimiste, envers et contre tout. Quelle vie n'a pas ses zones de tristesse ou de mélancolie? Cependant, c'est joyeux. Avec ce livre, avec ce poème, on avance, on traverse les jours d'une vie. Celle de l'auteur, sans doute, tant on sent sa présence et son engagement derrière les mots. Un poème, un livre comme un cadeau, comme une transmission, comme si l'homme qui écrit tenterait ici de donner l'essentiel de ce qu'il a compris, senti ou cru voir de la vie. Un livre donc à laisser à portée de main dès 10 ans et sans limite d'âge, et je vais vous en lire les premières pages. Ô ma vie, tu m'en fais voir de toutes les couleurs. La mort de mon père et l'oiseau dans la boue. Le bleu, je veux bien. Celui des montagnes, quand je me lève en lisant du Verlaine, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Le bleu de la mer à Dakar, où j'ai perdu mes lunettes. Mais le bleu de la mer, on le voit même en fermant les yeux, comme le bleu des yeux de mon amour. Oui, j'ai perdu mes lunettes en me baignant dans l'île des esclaves, mais moi, j'étais libre. Oh, liberté. Laissez-moi, je suis libre. Aimez-moi, je suis libre. Oh, ma vie, tu m'en fais voir de toutes les couleurs. Moi, le daltonien dont on se moque lorsque je cueille une pomme verte ou que je ne vois pas une fille rougir quand je lui souris sur la plage. La mer emporte tout, même les couleurs qu'on a dans la tête les jours de grand vent où l'on s'envolerait bien vers la vraie vie si proche que parfois je la sens à ma porte. Ouvrez-moi, je suis libre. Prenez-moi, je suis libre. La mer emporte tout, mais me ramène à moi, à ma force, à mes faiblesses, et j'ai des vagues de bonheur qui recouvrent ma vie depuis mon enfance à Valence, où le soleil venait sur mon lit pour réveiller mon grand désir de vivre. Oh, ma vie, tu m'en fais voir de toutes les couleurs, mais les nuits blanches, garde-les-moi, et j'écrirai ce que personne ne peut me dire. Voilà, ce sont les premières pages de « Oh, ma vie » de Marc Baron, dont je vous conseille vivement la lecture, et c'est paru aux éditions de La Rumeur Libre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée qui se continue avec tout le bleu dont parlait Marc Baron à l'instant, et je vous dis à bientôt.
Vous aurez la grande joie de retrouver Patrick Jokel, mais aussi Cécile Guivarch et Claude Verset dans 4 semaines. Nous nous retrouvons quant à nous dans 15 jours pour une prochaine édition de La Route Inconnue. Je vous souhaite d'ici là de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.
Nous nous rencontrons autour des billards électriques, autour des flippers et des chromes, des machines à café, des affiches de ciné. Nous nous rencontrons sous les néons des nuits de la ville, dans des cafétérias, des bars, autour d'une bière française ou étrangère. Demain nous ne serons plus jamais seuls. Demain nous ne serons plus jamais seuls. Demain nous rencontrons dans des transits, des quais de départ, dans des cabines de téléphone, des salles de drugstore, des aéroports. Nous nous rencontrons sur des vieux bateaux espagnols qui vont du port d'Algésiras en Méditerranée vers l'Afrique et Tanger. Demain nous ne serons plus jamais seuls. Demain nous ne serons plus jamais seuls. Demain nous ne sur des sons, des fumées, des lumières, dans des galères de music-hall, sur les grands boulevards ou des vieux hangars. Nous nous rencontrons pour des mots, des idées, des chansons, dans les ascenseurs des buildings, nous nous regardons et puis nous parlons.